Bonsoir. Quelques équipes nationaux de tout parlementaire puis de presse alliés ont plaidé hier mercredi pour des poursuites judiciaires à l'encontre du Premier ministre sortant et quelques membres de son gouvernement. Ce, après examen du rapport de la commission ECOFIN sur le projet de loi portant révision des comptes de l'exercice budgétaire 2015. Ce rapport révèle que des dépassements criants et des cas de soupçons de détournement des fonds dans l'exécution du budget 2015. Quelle analyse faire de cette démarche? Nous en parlons avec André Massoumboubaya, il est député national et président du Parti pour la Renaissance du Congo, Récon à Sigle, parti politique de l'opposition. Il est aussi membre de la Commission économique et financière à l'Assemblée nationale. Bonsoir, honorable André Massoumboubaya.
Bonsoir, Guy Maté.
Hervé Mangaridi, il est analyste indépendant. Bonsoir, Hervé Mangaridi.
Bonsoir, monsieur.
Et Michel Somou, analyste économique. Bonsoir, Michel Somou.
Bonsoir, Guy.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Quelques députés du groupe parlementaire UDPS alliés plaident pour des poursuites judiciaires à l'encontre du Premier ministre sortant et quelques membres de son gouvernement. Ils se sont exprimés au cours de la plénière à l'Assemblée nationale ce mercredi. Une plénière qui a examiné le rapport de la commission ECOFIN sur le projet de loi portant révision des comptes de l'exercice budgétaire 2015. Ce rapport révèle des dépassements criants et des cas de soupçons de détournement des fonds dans l'exécution du budget 2015. Mais des proches du cabinet du Premier ministre contactés se disent surpris car, selon eux, le chef de l'État avait déjà jugé positif le bilan du gouvernement dans son discours devant le Congrès. Un reportage de Michel Kifindangoy.
Dans son rapport, la Commission économique et finances démontre clairement que l'exécution du budget 2015 contient beaucoup d'irrégularités et surtout des dépassements budgétaires criants dans la réalisation de certains projets. Jean-Luc Moutokambali, président de la Commission ECOFIN.
Les dépassements budgétaires sont au niveau des projets d'investissement dans le secteur social. Le cas échéant, s'il y a eu des malversations avérées, il puisse y avoir des sanctions à l'encontre des gestionnaires.
Plusieurs députés qui sont intervenus dans le débat plaide pour des poursuites judiciaires en plus de la mise en place d'une commission parlementaire. Député Papiniango.
Les rapports de la commission ECOFIN révèlent plusieurs cas de détournement des deniers publics qui appellent la mise en accusation du Premier ministre. Vous avez cette école primaire à Pouloulou, à Selemba, au profit de quelle Matata Nkunyu a fait décaisser environ 5 500 000 dollars américains, alors que sur les sites, il est en train d'y être érigé une petite école de 6 salles de classe en état encore de fondation.
Contacté à ce sujet, le cabinet du Premier ministre s'est dit étonné de constater de telles réactions des députés nationaux, alors que dans son discours devant le Congrès, le chef de l'État avait déjà jugé positif le bilan du gouvernement Matata.
Merci Michel Kifindangoy, André Massoumboubaya. Je rappelle que vous êtes député national et président du Parti pour la Renaissance du Congo, Récon à Sigle, le parti politique de l'opposition. Vous êtes aussi membre de la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale. Et après avoir examiné ces rapports de la commission ECOFIN, qu'est-ce que vous avez constaté?
Bien. Je vous remercie très sincèrement pour... Et je salue tous les auditeurs de Radio Okapi. En fait, sur le déroulement des travaux, au niveau de l'ECOFIN, nous avons décelé un certain nombre de contre-performances réalisées par le gouvernement, particulièrement sur les justifications des contre-performances enregistrées dans les réalisations des recettes en 2015, et puis l'impact des mesures fiscales et d'encadrement préconisées en 2015 sur l'évolution des recettes et les niveaux de taxation effectués par les services d'assiette. Donc, d'une manière générale, le gouvernement Matata a atteint à peine sur les 5 500 milliards de dollars contre 8 496 milliards prévus, d'où donc un taux de réalisation de 65%. Et donc, nous l'avons constaté, qui n'a pas tout à fait réalisé les assignations qui ont été faites par l'Assemblée nationale.
Et vous, à la commission ECOFIN, vous attribuez ces contre-performances à quoi ?
Eh bien, écoute, c'est-à-dire que nous analysons l'année 2015. Il faut que les auditeurs comprennent que l'on n'est pas en 2016, mais on est en 2015. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les services des régies financières n'ont pas, je parle ici, de la DGDA, de la DGI, de la DGRAT et par exemple les services pétroliers n'ont pas atteint les prévisions qui ont été établies en 2014. Et c'est pour cette raison-là que normalement les gouvernements devraient nous justifier ces contre-performances. Et c'est que lui-même, aujourd'hui, il évalue sa situation en disant que son programme, le programme 2012-2016, il a atteint les objectifs. Mais comment voulez-vous atteindre les objectifs pendant que le budget n'a pas été souvent réalisé, pas à 100%, mais quand même, si on veut dire qu'on a atteint les objectifs, il faut arriver à approcher quand même entre 90, voire même 95%. Et à ce moment-là, ça sera vraiment bien. Bon, il faut avouer qu'il y a certaines rubriques qui ont fait des dépassements, c'est-à-dire qui ont dépassé, je parle des recettes, qui ont eu des dépassements, c'est-à-dire de bonnes réalisations. Mais par contre, plusieurs autres. Et donc, il y a eu, je peux dire qu'au niveau des services de régie financière, un problème de collecte, de recouvrement, d'application des réformes qui ont été mises en place. Et notamment, surtout en matière de TVA, des deux régies financières, les grandes grands régies financières, et DGI et DGDA, il n'y a pas une collaboration étroite en matière d'informatisation, et ce qui ne permet pas de suivre cette rubrique assez importante.
Honorable Massoumbou, vous savez que depuis quelques années, les cours de matières premières ont chuté. Est-ce que cela ne peut pas constituer une sorte de circonstance atténuante, n'est-ce pas, pour le gouvernement?
Non, nous analysons 2015. Les cours ont commencé à baisser au milieu de l'année 2015. Je suis tout à fait d'accord. Mais les effets directs ont été constatés en quatrième trimestre 2015. Et 2016, ça, on peut comprendre qu'il puisse y avoir des contre-performances. Mais si 2015, certainement, on était encore sur le premier semestre, on était encore entre 80 et 90 dollars sur le baril du pétrole, et on était à entre 5500 à 6000 dollars la tonne de cuivre. Et donc, on peut dire qu'au cours de 2015, la situation mondiale était plus ou moins favorable.
Et par rapport au dépassement budgétaire, vous pouvez nous citer les institutions où ce dépassement budgétaire a été constaté?
Ben, sur le plan des dépenses, alors, je dois vous
en
dire...
En termes de pourcentages Prenons par exemple l'Assemblée nationale.
Il y a une rubrique qui avait été réalisée au niveau de l'Assemblée nationale. Cette rubrique-là, nous l'avons d'ailleurs spécifiée. D'ailleurs, il va y avoir une commission d'enquête pour pouvoir analyser l'ensemble des rubriques de tous ces dépassements. Il y a 399 millions qui ont été imputés à l'Assemblée nationale, alors qu'en analysant ces montants-là, n'a pas été tout à fait affecté à l'Assemblée nationale. Et là, nous voudrons savoir pourquoi le gouvernement, le ministère des Finances et autres ont imputé ce montant-là de 399 millions à l'Assemblée nationale, alors que ça a été réalisé, ou si vous voulez, dépensé dans une autre institution, dans un autre ministère. Et là, nous voudrons connaître le pourquoi. Et les raisons fondamentales, si on ne trouve pas, ben, nous allons pouvoir prendre des sanctions. Les sanctions, vous le savez, ça peut être disciplinaire, civil ou pénal.
Alors, vous parlez des sanctions civiles, des sanctions actuellement pour un gouvernement démissionnaire, et vous pensez que ces sanctions auraient quelle valeur?
la valeur est là parce que ce sont des citoyens congolais qui ont tout à fait géré, et donc vis-à-vis de l'appareil judiciaire, ils peuvent être poursuivis. Ça, c'est le un. Deuxièmement, aujourd'hui, on va former un nouveau gouvernement. Il faut nécessairement que ce genre de personnes qui ont gouverné pendant cette période-là ne soient pas éligibles pour devenir de nouveau ministres. Ça sont des sanctions purement administratives et civiles. Merci. Mais on peut poursuivre les raisonnements sur le plan judiciaire, sur le plan pénal.
Merci Hervé Magalibi, analyste indépendant. Quelle analyse vous faites de ce qui ressort, n'est-ce pas, de l'examen du rapport de la commission ECOFIN sur le projet de loi portant reddition des comptes de l'exercice budgétaire 2015?
Oui, merci beaucoup Monsieur Guy Maté. Merci aussi honorable pour votre exposé. Il est vrai que l'Assemblée nationale est une institution qui a pour mission, entre autres évidemment, les contrôles de l'action gouvernementale. La première chose que je vais commencer par dire, il y a le cabinet du Premier ministre qui a évoqué une surprise. Par contre, c'est moi qui vais commencer par dire que j'ai été surpris lorsque les cabinets imaginent ou pensent que le chef de l'État avait jugé le bilan de Matata Ponyo positif. Je trouve très bien que ça, c'est une déviation. Parce qu'on dirait qu'il y a une incompréhension des prérogatives qui sont dévolues aux institutions de l'État. Ce n'est pas au président de la République de reconnaître la positivité du bilan d'un gestionnaire à qui ont été données des prérogatives publiques. Il y a des institutions qui doivent faire les contrôles. Bien sûr, les discours n'est que politique. Mais ici, c'est un travail technique que la commission économico-financière du Parlement ou de l'Assemblée nationale a fait. Je vais évoquer, en fait, le premier élément, c'est en rapport avec la déclaration d'abord de Jean-Luc Moutokambali, l'honorable, qui est le président de la commission économico-financière de l'Assemblée nationale. De premier abord, vous devez savoir, M. Guy Maté et tous les auditeurs, c'est que le Parlement ou l'Assemblée nationale est l'œil du peuple sur la manière dont l'argent du contribuable est utilisé. Et la première des choses, le premier élément qui a été évoqué, c'est beaucoup plus dans les investissements, où il y a eu exactement, c'est probable. Parce que jusque-là, sur l'Assemblée nationale qui l'a dit, et que nous, en tant que peuple, nous avons donné notre confiance aux députés pour qu'ils puissent faire le suivi de la manière dont les gouvernements met en action ses actions ou sa politique gouvernementale. Et donc, dans les investissements, il y a eu exactement des dépassements. Je vais vous donner deux ou trois exemples très clairs. Vous voyez, par exemple, le bâtiment, on appelle évidemment Kinshasa bâtiment intelligent. Je ne sais pas, il est intelligent en quoi. Je me pose la question, est-ce qu'il conduit les gens de lui-même?
L'actuel siège du gouvernement.
Exactement. Et l'argent qui a été investi dans ces bâtiments, plusieurs langues disent que l'argent qui a été justifié par le Premier ministre, je ne dis pas justifié, mais peut-être déclaré par le Premier ministre, ne correspond absolument pas à ce que cet argent pouvait réaliser si réellement bonne gouvernance ou transparence aurait été observée. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est ce que le député Papi Nyangou a évoqué par rapport à l'école primaire de Selimbao, où vous évoquez 5 millions de dollars pour une école dans une commune de Selimbao. Mais ça, c'est un collège extraordinaire de 5 millions de dollars, je m'imagine. Donc, sur ce plan, il y a des indicateurs, je ne parle pas de preuves, il y a des indicateurs qui montrent absolument qu'il y a lieu de mettre en cause un certain nombre de justifications qui sont données dans le rapport du Premier ministre. Et un autre élément très important, M. Guy Maté, c'est un aperçu historique peut-être que je vais faire. À partir de 2012, lorsque Matata Ponyo est entré en fonction, jusqu'en 2014, tous les rapports de la Commission économico-financière ont repris régulièrement des horaires sur la manière dont le fonds public de l'État sont gérés. Et je vais vous parler, peut-être vous étonner un peu, de ce qu'on appelle la rubrique de dépenses d'intervention. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Au Parlement, on en sait quelque chose, et à la Commission économico-financière, on en sait quelque chose. La rubrique des dépenses d'intervention, c'est une rubrique qui s'est avérée être opacieuse et non transparente, dans la mesure où tous les fonds qui ont été alloués à cette rubrique n'ont jamais été justifiés. Clairement, elles servent à quoi? Ou ils servent à quoi ces fonds? Donc, dans un premier temps, je peux tout simplement dire que la Commission économico-financière prouve jusque-là que le peut encore avoir la confiance du peuple dans la poursuite de son travail légal de faire le contrôle de l'action du gouvernement.
Et au vu des explications de l'honorable Massoumbou et de vos analyses, peut-on d'emblée conclure que le gouvernement Matata a mal géré les finances publiques de l'État?
Je pense très bien qu'en tant qu'un citoyen, mais aussi, et honnêtement, je pense, en matière publique, on ne fait pas des choses par sentiment. Aussitôt que quelqu'un est doté des prérogatives publiques pour gérer, pour diriger, je ne les considère plus comme quelqu'un qui parle la même langue que moi, je ne les considère plus comme quelqu'un qui vient de la même province que moi, je les considère comme quelqu'un qui a des prérogatives publiques. Et donc, il y a une procédure. La Commission économico-financière a reçu le rapport, l'a analysé, l'a dirigé au Sénat pour une deuxième lecture. Et à l'issue de ces analyses, on établit qu'il y a eu des dépassements criants, des détournements dans le budget. Alors, c'est la Cour des comptes qui doit être saisie pour pouvoir arriver à mettre la main sur les preuves qui sont palpables et qui peuvent évidemment conduire à ces sanctions auxquelles a pensé l'honorable, les sanctions disciplinaires, civiles et pénales.
Vous, en tant qu'analyste indépendant, comment vous comprenez l'attitude des députés qui se sont censés, n'est-ce pas, constater certains faits qui se produisent sur terrain? C'est comme par rapport à cette école évoquée par le député Nyango, Papi Nyango. Ça, c'est des choses visibles. Les députés passent par là, ils voient, ils ne disent rien, ils restent passifs. Et c'est seulement lorsque le Premier ministre s'en va qu'il se permet de dénoncer. Comment vous jugez cette attitude des députés?
Ouais, je pense que pour être très honnête, c'est que le Parlement est une institution à la fois entre guillemets politique, très politique, et aussi, je veux dire entre guillemets aussi populaire. Populaire parce que ce sont les gens qui ont été votés par le peuple qui y siègent, mais politique d'autant plus que le rouage dans lequel ils fonctionnent, ce sont des rouages purement politiques, et donc ils sont plus ou moins tacticiens. Du temps, des circonstances pour pouvoir mener un certain nombre d'actions. Mais ce que je peux dire simplement, c'est que le prémisse étant fausse, la conclusion l'est par conséquent. Ça veut dire la manière dont nous élisons nos députés à l'Assemblée nationale, déjà étant très biaisée par rapport au choix rationnel qui devrait faire le peuple. Donc je m'imagine que c'est une continuité de toutes ces prémisses-là qui fait à ce que peut-être qu'il n'y ait pas assez de résultats escomptés de la part des députés.
Merci Michel Sommoy, analyste économique. Votre analyse par rapport à cette situation?
Merci Guimaté. J'ai l'impression de me trouver dans une pièce de théâtre. Pièce de théâtre parce que, primo, ce n'est pas la première fois qu'il y a des détournements, des dépassements, des contre-performances. Il n'y a pas une seule année dans ce pays où on n'a pas décrié les mêmes phénomènes. Chaque année, les mêmes choses. Pas seulement sous Matata, d'ailleurs sous Matata, tous les quatre ans successifs ont été caractérisés chaque année par des détournements, par des dépassements budgétaires, par des contre-performances du côté des recettes. Ses prédécesseurs, la même chose. Ça veut dire qu'au départ, il y a un problème au niveau du Parlement. Pourquoi un Parlement responsable peut-il laisser passer un budget qui ne signifie rien et dont tout le monde peut prévoir qu'il va être géré sous mode saupoudrage, émiettement, et donc détournement? Comment vous pouvez comprendre que un pays, je ne voudrais pas ajouter un adjectif quelconque à ce pays-là, comment vous pouvez comprendre qu'un pays voisin qui entre dans la seule ville, de Kinshasa, trois à quatre fois du point de vue de sa population, je parle du Congo-Brazzaville, comment pouvez-vous comprendre que ce pays puisse avoir un budget équivalent à plus ou moins 2000 dollars par tête d'habitant? Et que le Congo, à qui Dieu a donné toutes les ressources naturelles du monde, se contente d'un budget qui équivaut environ à 50 dollars par habitant.
si on devait vivre, nous donner un train de vie plus ou moins équivalent à celui de notre voisin d'en face, de l'autre côté du fleuve, du Congo-Brazzaville ici, le budget de la RD Congo devait être de au moins 160 milliards de dollars. Mais le Parlement congolais laisse passer un budget en prévision de 8 milliards de dollars. Et tout en sachant que aucun budget n'a été exécuté au-delà de 70%.
Et donc aujourd'hui, les députés ne peuvent pas se permettre de condamner Matata. Le problème, c'est plutôt eux qui sont autorités budgétaires.
Ils doivent avoir honte. Ils devraient s'excuser. Parce qu'ils ont trahi le peuple qui les a élus. Nous avons élu les députés afin qu'ils plaident nos causes, qu'ils nous apportent le développement par leur intervention auprès du gouvernement, en bousculant le gouvernement, en poussant le gouvernement vers ses responsabilités régaliennes. Aujourd'hui, le Congo est en train de disparaître. Je reçois des images sur Facebook qui me viennent de partout, y compris de chez moi à Cabinda, où une paroisse entière disparaît comme ça, à la faveur d'une bête érosion. L'État est incapable d'intervenir. Et cette ville-là, cette province-là, elle a élu des députés. Mais de quoi parlent-ils ces députés quand ils sont au Parlement? Mais comment expliquer qu'on leur amène un budget insignifiant et ils laissent passer et ils applaudissent? Et à la fin, ils sont les premiers à se lever pour dire, voilà, on a détourné, voilà, il y a eu des passements ici, mais vous êtes supposé le savoir dès le départ. Quand un gouvernement, vous voyez qu'il est incapable de mobiliser des ressources qui permettront aux citoyens d'exister comme des êtres humains créés à l'image de Dieu, si vous êtes un parlement responsable, vous le révoquez. Vous dites à ce gouvernement, messieurs, vous n'êtes pas digne de diriger ce pays. Mais on l'a laissé faire. Combien de fois vous ai-je dit que la gestion de Matata n'est qu'une somme de mensonges financiers permanents? Et quelle intelligence faut-il au gouvernement pour décrypter ce mensonge financier? Tous les jours, cadre macroéconomique, mensonger, inexistant, stabilité artificielle. Et on vous raconte des performances ésotériques qui n'existent nulle part, qui ne se vivent nulle part.
Michel Sommoy, dans ce rapport de la commission ECOFIN, on parle des indices, n'est-ce pas, des détournements des fonds. Et quand est-ce qu'il y a des détournements? Lorsque ce détournement n'a pas profité à des individus, mais plutôt, c'est l'effet d'une décision qui a été prise par rapport au fonds qui initialement était destiné pour un ouvrage donné, mais pour des raisons urgentes, on prend ces fonds, on les destine pour solutionner ces problèmes. Est-ce que ça, quand il y a ces problèmes-là, ces cas-là, on peut parler d'un détournement des fonds?
Oui, il y a un détournement. En droit comme en finance publique, il y a un détournement lorsque des fonds affectés dans le budget pour une dépense X sont utilisés pour financer une dépense Y. Ça s'appelle détournement.
Et pour ces détournements-là, on peut même sanctionner quelqu'un.
Absolument.
Le gouvernement.
Mais c'est l'équivalent d'un vol. Parce que lorsque un budget est voté, C'est le peuple qui a, à travers ses représentants, que sont nos députés, c'est le peuple qui s'est prononcé en faveur de tel projet, de tel autre. Vous ne pouvez pas prendre l'argent destiné, par exemple, au financement des élections pour construire votre immeuble intelligent. C'est du vol. C'est le terme. C'est du vol. C'est ça qu'on appelle détournement. Parce que ce que vous faites là, qui n'est même pas budgétisé à la limite, ça cache vos intérêts mesquins à vous. Et puis Dieu, pourquoi ce Parlement est-il si distrait? André, pardonnez-moi. Pourquoi ce Parlement est-il si distrait, le nôtre? À l'entrée, en fonction d'après la loi, les mandataires publics sont condamnés à déclarer leur patrimoine. Et ils le font sous pli fermé et ils le déposent. Mais à la sortie du gouvernement, personne ne suit la situation pour savoir quelle est la situation actuelle de leur patrimoine. On ne peut pas laisser partir le gouvernement Matata sans qu'il nous fasse la déclaration des biens actuels, qu'on confronte la situation de ces biens actuels à ceux qu'ils avaient au moment où ils entraient dans les fonctions publiques. Mais le Parlement ne suit pas ça. Tout le monde est distrait, tout le monde se précipite pour occuper des fonctions ministérielles. Tous ceux qui sont au Parlement sont tentés d'aller au gouvernement aujourd'hui. Mais qu'est-ce que cela veut dire, ce pays-là? Mais il y a un problème. Donc il y a un problème moral au niveau des fonctions politique publique. il y a un problème moral. Et quand le Parlement vient raconter des histoires, c'est juste pour nous faire danser, pour nous distraire. La réalité est là, il n'aurait même pas dû investir le gouvernement Matata. Il n'aurait même pas dû le faire. Parce que c'est, on a d'abord, il est parti d'un programme économique, d'un programme du gouvernement faux et totalement abstrait, non chiffré.
Vous avez suivi l'honorable Massoumbou qui parle d'une commission d'enquête. Et pourquoi une commission d'enquête dès lors qu'on sait que l'ECOFIN a fait son travail? Est-ce que n'est-ce pas une façon de se méfier, n'est-ce pas, du travail fait par l'ECOFIN?
Du maté, les commissions d'enquête, chaque année dans ce pays et dans ce Parlement, il y en a eu. Chaque année. Elles ont abouti à quels résultats jusqu'à aujourd'hui? C'est pour ça que nous sommes dans un folklore où on refait les mêmes danses, la même répétition, le même jeu. Merci. Et puis on va passer à rien.
Merci, honorable Massoumbou. Il y a une réflexion à laquelle vous allez réagir. Elle vient des Kalima.
Il ouvre Koulimouche à partir des Kalima au Maniema. Cette démarche est à saluer et vaut son pesant d'or vu la gestion calamiteuse qui a caractérisé les gouvernements sortants. Je me demande cependant où étaient ces parlementaires pour dénoncer cette situation. Certes, on peut dire mieux vaut tard que jamais, mais la Constitution ne donne-t-elle pas aux parlementaires le pouvoir de démettre un gouvernement? Qu'ont-ils fait pour ce gouvernement sortant qui a fait de la gestion la règle? Pourquoi attendre le départ de Matata pour commencer à demander sa tête? Quelle dénonciation tardive de ceux qui ont été durant 4 ans et demi monnaie courante laisse croire que Matata Ponyo avait soit de l'emprise sur le Parlement, ou soit qu'il était intouchable, ou alors le parlementaire était complice de cette situation.
Honorable Assombou, le Parlement était inféodé à Matata, ou c'est Matata qui était inféodé au Parlement?
Non, il faut d'abord noter que M. Koulimouche, excusez-moi si j'ai massacré votre nom.
Koulimouche.
Oui, effectivement. Mais c'est que ma réponse va de soi à l'auditeur ainsi que à mon débatteur Michel. Vous devrez savoir qu'un Parlement, effectivement, comme l'a dit l'analyste, c'est une... En fait, le Parlement est politique, est hautement politique. Et donc, ce que vous devrez noter, c'est pas de condamner totalement tous les députés du Parlement, de l'Assemblée nationale, mais plutôt de voir, de savoir que nous avons deux tendances dans un Parlement. La majorité et l'opposition. Et moi qui vous parle, je suis du camp de l'opposition, ça a été annoncé, dès le départ par Guy Maté. Et donc, nous avons voulu, par rapport à notre rôle de légiférer, par rapport à notre rôle de contrôler et d'établir les budgets, de contrôler les budgets, de faire ce contrôle, c'est fait par des motions, des défiances, ce contrôle, c'est fait par des questions écrites, par des questions orales, par des interpellations. Si au niveau du budget, nous avons voté régulièrement le budget en regardant toutes les rubriques par rapport à la situation macroéconomique du pays, c'est-à-dire le PIB, la plus grande question que je peux, question que je peux répondre au niveau de Michel et de l'auditeur qui vient de me poser la question, c'est de noter que et le PIB doit être comptabilisé globalement. Et lorsque, au niveau de la production, tout s'est fait, mais que cette production est minimisée sur sa comptabilisation, ben, vous n'atteindrez jamais les 100 milliards de dollars estimés. Et donc, il y a lieu, que ce soit au niveau du code minier, que ce soit au niveau des négociations sur le pétrole, de l'Ouest et le pétrole de l'Est du pays, qu'une étude approfondie soit établie afin que le pays retrouve réellement sa production. Et vous savez, c'est le plan pétrolier. Quand vous regardez le plan que Matata a établi en 2012, il était prévu que nous passions de 25 000 barils par jour à 225 000 barils par jour. Je demande à tous les auditeurs de regarder, que ce soit à l'internet, son programme,
mais il n'a pas dépassé les 25 000 barils.
Honorable, lorsque vous faites cette analyse-là, est-ce que vous-même, vous estimez que vous avez fait votre travail, vous avez joué comme il se doit votre rôle de député?
Oui, pleinement. Nous avons posé des questions écrites, des questions orales, mais ces questions ont été bloquées, soit au bureau d'études, soit par le bureau, notre propre bureau. Le contrôle parlementaire n'a pas été libéré. C'est plutôt à peine en 2016 ici que nous avons constaté que notre président de l'Assemblée nationale a commencé à libérer. Vous devez savoir que quand les députés posent des questions, font des motions, sur 100 motions ou questions orales, etc., interpellations demandées, il n'y a que 20% que les bureaux libèrent. Et encore, parfois 10%. Et donc, vous dites que les députés ne font pas leur travail, mais ils font réellement leur travail.
Et donc, vous voulez dire que c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui a protégé, n'est-ce pas, le gouvernement?
Mais c'est clair et net, ils sont du même camp.
Merci, Monsieur Magalibi. Il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Kananga.
Je suis Georges Ntumba, à partir de la province du Kassai central à Kananga. Autant les contrôles parlementaires sont rigides, autant les actions judiciaires sont fragiles. Dans les mêmes circonstances, les mêmes causes produisant les mêmes effets, la suite de cette affaire est facilement imaginable.
Oui, Magalibi.
Oui, merci beaucoup, mon compatriote à Kananga. Oui, c'est vrai, il a dit que autant les contrôles sont rigides, autant les actions judiciaires sont fragiles. Bon, en fait, c'est une relation que je lui concède de toutes les façons. Et puis, il dit que la suite est imaginable. Mais il n'a pas dit son imagination, c'est laquelle. Mais en fait, ce que je sais, c'est que le pays a besoin absolument d'une grande réforme en ce qui concerne la gestion des finances publiques. C'est très clair que depuis un certain nombre d'années, les finances publiques congolaises ont été caractérisées par une très grande opacité, un grand manque de transparence, qui en fait sont ancrés dans tous ces systèmes de mauvaise gouvernance et de mauvaise gestion qui caractérisent en fait notre État. Ce que je vais évoquer en fait par rapport au contrôle qui a été fait par la Commission économico-financière, c'est en fait son rôle. Son rôle, c'est de pouvoir contrôler l'action du gouvernement, de savoir exactement si les rapports qui lui a été déposés par le Premier ministre correspondent aux recommandations qui lui ont été faites bien avant. Parce qu'il y a toujours une concomitance des rapports. En 2014, la Commission économico-financière analyse les rapports de l'an 2013 et en 2015, on fait l'analyse de l'an 2014.
Et c'est presque la même conclusion.
Voilà. Donc, c'est en fait un travail très technique qui demande quelquefois de l'expertise assise pour pouvoir dénicher le dépassement ou, je vais dire, quelquefois détournement. Ce n'est pas un travail. Je le sais très bien, parce que le finance publique demande un œil d'aigle pour pouvoir savoir si réellement les comptables ou les financiers n'a pas menti. Et donc, si la Commission économique et financière a déjà donné son rapport, elle doit le partager avec la Cour des comptes. La Cour des comptes a le devoir de pouvoir faire son travail, de pouvoir contrôler de plus en plus, en fait, d'établir les responsabilités. Et si responsabilité de détournement il y a, nous serions tous contents de voir une jurisprudence où un ancien ministre, un ancien premier ministre, être traduit en justice. Être traduit en justice n'est pas illégal. Être interpellé par la justice n'est que normal dans un pays qui s'appelle démocratique et état de droit. Et donc, Ça donnerait en fait une certaine lueur, un certain espoir de dire voici les Congos que nous rêvons, même si nous sommes toujours sous le sommet.
Merci. Vous avez relevé la nécessité, n'est-ce pas, de réformer la gestion des finances publiques du pays. Plusieurs fois, après l'audition des rapports ECOFIN sur la révision des comptes, on a toujours fait des recommandations en se basant sur la loi des finances publiques à l'OFIP. Mais on se rend compte que rien n'est changé.
Oui, ben, parce que vous devez comprendre avec moi, M. Guimaté, ce que déjà même dans le ministère, quand vous visitez le ministère, vous allez vous rendre compte que tous les fonds qui sont alloués au fonctionnement des ministères, le fonds qui leur sont alloués ne sert absolument pas réellement au fonctionnement de celui du ministère. Donc vous arrivez dans le ministère où vous n'avez pas de papier, vous voulez faire un travail, ne fût-ce que photocopier ou imprimer un document, vous manquez quoi faire. Donc il y a absolument il y a absence de la transparence dans la gestion de notre pays, nous devons le reconnaître, et que sur l'élément il y a de la volonté, il faut absolument que le Parlement puisse faire son travail, que l'Assemblée nationale ne puisse pas protéger le ministre. C'est en quelque sorte gâter un enfant, c'est le déformer. Merci.
Merci Michel Somoué. Il y a une réflexion à laquelle vous allez réagir, elle vient de Kinshasa.
Maître Joël Bongo Longondo, je suis à Kinshasa. La démarche est à saluer car la gestion des fonds de l'État ne doit pas être confondue avec les recettes d'un particulier libre. Il importe qu'une enquête sérieuse et indépendante soit diligentée pour apporter toute la lumière et que le parquet général de la République mette la machine d'instruction préparatoire en marche pour éviter d'une part les récupérations politiques et d'autre part la négligence concernant de telles révélations. La manière de traiter ce dossier sensible démontrera ou non le sérieux ou la légèreté qu'il y a dans la gestion des questions sensibles de la République démocratique du Congo, surtout dans cette période où le gouvernement n'a pas été en mesure de financer les échéances électorales.
Oui, Michel Somoué.
C'est pertinent. Il dit des choses qui sont très pertinentes. Saluer la démarche, ça veut dire quelle démarche? C'est celle de mettre en examen le gouvernement qui est déjà sorti. Pour quelle finalité, hein, plutôt? Les sanctions dont parle l'honorable député sur cette table, parmi lesquelles sanctions civiles, avec quel pouvoir vont-ils les voir les faire exécuter? Est-ce qu'ils participent à la formation d'un gouvernement? Nous vivons dans ce pays ici. Le mode de nomination des ministres, est-ce que le Parlement a un seul mot à dire là-dedans? C'est un problème. Le député me dit que ils ont été mis en minorité, parce que c'est une minorité, la loi de la démocratie, c'est la majorité qui l'emporte. Mais il n'y a pas que les questions orales, il n'y a pas que toutes ces motions de défiance que nous avons vues, sans succès. Mais nous savons aussi que des motions initiées par des députés de l'opposition ont été retirées par les mêmes députés eux-mêmes pour des raisons personnelles. Nous les avons vus, ce sont des députés de l'opposition. Quelqu'un vient, il introduit une motion comme quoi le Premier ministre a volé, il a fait ceci, cela, motion, on fait beaucoup de tapage dans les journaux, dans la presse. Après on l'appelle à côté, deux jours c'est fini, on apprend à la radio que le député a retiré sa motion. Pour des raisons mystérieuses. Nous les avons vus, ces députés-là. Nous avons vu des députés poser des signatures sur des motions et puis les retirer après, les mêmes députés de l'opposition. Et puis, tout ne s'arrête pas qu'au Parlement. Parce que vous n'avez pas été élu au Parlement. Vous avez été élu par vos bases respectives. Qu'est-ce que vous faites des pétitions? Quel député a initié une pétition contre un gouvernement signée par sa base? 100 000 personnes, 200 000 personnes, 100 000 personnes, vous les mobilisez pour dire « Nous ne voulons pas que cette histoire passe. Il faut que la base, le peuple se prononce directement. » Ils ne l'ont jamais fait. Après, qu'est-ce que nous apprenons? Je n'ai pas de preuves, mais tout le monde le sait, parce que tout se sait. Tout se chuchote dans ce pays, comme disait Kengo un jour. Tout se sait ici. On dit après quoi? Quand il y a une motion, quand il y a un problème, les enveloppes circulent. Combien de fois députés de l'opposition ont dénoncé cette corruption pour dire « Voici une enveloppe qu'on m'a donnée, je l'ai refusée. » Combien de fois?
Et comment vous entrevoyez la suite? Est-ce que ces projets de loi sera-t-il adopté, ces projets de loi sur la reddition des comptes?
Qu'on le veuille ou pas, le projet de loi sur la reddition des comptes sera adopté à partir du moment où ceux à qui ce projet profite vont décider qu'il soit adopté. Même si amendement il y a, tout le monde sait qu'il sera adopté. Parce que vous avez vu des projets de budget qui étaient inacceptables. Quel nanisme budgétaire, des budgets chétifs comme j'aime le dire. Le parlementaire, André l'a dit tout à l'heure, il passe au tribunal, il donne des arguments très solides, très viables, très valables, contre le budget. Et puis après, qui sont pour, qui sont contre, le budget passe. Est-ce que ceux qui votent là, ne sont-ils pas conscients un jour qu'ils sont en train de travailler contre la République, au nom de la majorité? Est-ce que ce sont des partis politiques qu'ils ont envoyés au Parlement ou bien c'est la base populaire qu'ils ont envoyée au Parlement? Qui travaille pour leur peuple pour qu'au Parlement, chaque jour, ils ne parlent plus que de leur parti politique, de leur famille politique? C'est là qu'il y a un problème.
Merci, on
il faut une conscience. Parce que le Congolais se comporte comme une épave de chair sans âme.
Merci. Honorable Masmou, quelles sont les recommandations qui sont formulées par la commission ECOFIN à l'endroit du prochain gouvernement?
Du prochain gouvernement, non. Nous disons que nous avons plutôt formulé cette révision des comptes, des recommandations au gouvernement qui était en fonction malheureusement.
Mais ils sont partis.
Ils sont partis donc voilà. C'est le gouvernement qui va venir, qui pourra nécessairement les appliquer. Nous avons demandé que de respecter scrupuleusement l'exécution des lois des finances de l'année votée et promulguer en priorisant des allocations budgétaires dédiées aux secteurs sociaux tels que le ministère de l'enseignement primaire et secondaire, technique et professionnel, le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique, de l'agriculture, du développement rural, de la jeunesse, des prévoyances sociales, en fait d'assurer le bien-être de la population.
N'est-ce pas les mêmes recommandations qui vont formuler chaque année
non,
qui ne sont jamais prises en compte?
Oui, effectivement. Mais je disais bien, ici, nous donnons des avis valables. Michel vient de les dire. Nous donnons des avis valables. Mais à la fin, le budget passe. Mais c'est ça le problème de la loi, de la démocratie, de la majorité et de la minorité.
Donc vous voulez dire que si tout dépendait de l'opposition, si le budget ne passerait pas.
Mais même si nous donnons des avis pour contredire, attaquer le gouvernement, mais si jamais la majorité dit non, il faut que ce budget passe, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse?
Et en conclusion, quels sont les conseils que vous donnerez à vos collègues députés et au prochain gouvernement pour que les choses se passent, n'est-ce pas, dans la transparence et n'est-ce pas, rationnellement?
Rationnellement, bien sûr, le gouvernement qui arrive a une mission d'organiser les élections. Toujours de chercher la stabilité macroéconomique et ensuite de veiller au bien-être social de la population. C'est ça, ce sont ces trois objectifs. Mais il faut que ces gouvernements aient des ressources. Et pour qu'ils aient des ressources, il ne faut pas qu'on commence par avoir un gouvernement parallèle. Matata est sorti, il a nommé des gens au niveau des régies financières, et aujourd'hui, c'est le gouvernement qui arrive, si j'étais là, s'il y a un conseil à donner, c'est de pouvoir revoir les systèmes de finances publiques.
Merci, Hervé Mangaribi. Vos conseils, n'est-ce pas, à l'endroit des députés nationaux et à l'endroit du prochain gouvernement, pour que les choses se fassent plutôt rationnellement et dans la transparence.
Oui, je pense qu'au Parlement, déjà, il y a de grandes intelligences. Mais je vais tout simplement leur dire que l'intelligence ne suffit pas là où il n'y a pas du bon sens. Je pense que la politique telle que nous la vivons au Parlement congolais, ou beaucoup plus à l'Assemblée nationale, je trouve beaucoup plus que les gens sont plus instruits, mais ils ne font pas vraiment preuve du bon sens, de façon que nous donnons l'impression d'être de gens qui nous tirons nous-mêmes sur notre varèse. Et en termes de conseils au prochain gouvernement, je vais tout simplement dire, c'est vrai, il y a beaucoup d'attentes, de la part du peuple congolais, notamment l'organisation des élections. Nous voulons à ce que les élections puissent avoir lieu, mais je vais simplement évoquer rapidement des petites choses, M. Guy. La première, c'est que, vous savez, les conflits qu'il y a eu entre le ministère du budget, en fait, et la CENI par rapport aux fonds qui ont été alloués à la CENI, et que la CENI n'a jamais reconnu avoir perçu. Et en dernier lieu, je vais évoquer la question du ministère des Affaires étrangères, qui est en grève plus des mois maintenant.
Merci.
Et qui a vraiment
il y a besoin de pouvoir donner.
Le Congo a besoin d'une autre conscience. Nous avons besoin des intellectuels consciencieux, parce qu'à l'université nous avons appris que âme sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il faut que nous puissions rebâtir l'homme, l'être, le vrai, par le culte du courage, de la vérité, par le culte de la justice.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci et bon suivi de programme sur Radio Capitale.